Vous écoutez, on lit pour vous.
La lenteur est une énergie. Un texte de Chantal Guy, paru le 2 juin 2024 dans la presse. J'ai toujours été fasciné par les personnes qui pratiquent le tai chi dans les lieux publics. La première fois, j'ai trouvé ça bizarre. Mais qu'est-ce qu'ils font, ces gens, croyant à une performance artistique? Ensuite, quand une mode s'est installée, je me demandais si ce n'était pas un peu poseur. Puis, j'ai fini par penser que c'était peut-être une activité pour les vieux et les ésotériques. Dans ma vie, j'ai fait du yoga, du pilates et de la méditation. Rien d'intense, mais le tai chi demeurait un mystère que je n'osais pas trop percer, jusqu'à l'idée de ce dossier collectif sur l'importance de ralentir. Le tai chi, voilà un truc très lent. Et en l'explorant, je pouvais en même temps satisfaire ma curiosité. Car au fond, ce que je trouve vraiment curieux dans le tai chi est précisément sa lenteur affirmée. Ayant toujours eu beaucoup de difficultés avec la méditation, je n'ai jamais cru que le tai chi était pour moi. C'est niaiseux, mais la méditation me stresse, je n'y arrive pas. Le petit hamster dans ma tête roule trop vite, mes idées vont dans tous les sens. Cette phrase lue tantôt, « Qu'est-ce qu'on mange pour souper ?» Appeler le comptable pour les impôts, et je compte les minutes jusqu'à ce que la séance finisse, découragé de moi-même. Ça, c'est si je ne me suis pas endormi sur le tapis pendant les postures au sol. Or, le tai chi est en quelque sorte une méditation en mouvement, m'a expliqué Marie-Ève Gamache-Perron de l'École Art du Chi, Montréal, que j'ai contactée pour participer à un atelier de groupe au Parc Laurier. À mon grand étonnement, j'ai vraiment aimé ça. On ressent une forme de méditation, mais l'enchaînement très doux des mouvements empêche l'esprit de s'en aller ailleurs, en nous ancrant dans notre corps sans le brusquer. Cet esprit que l'économie de l'attention est en train de nous gruger sans arrêt. En fait, si l'esprit vagabonde, on n'arrive tout simplement plus à suivre les mouvements que je ne connaissais pas. Le débutant doit rester concentré, mais imaginez à quel autre niveau de concentration il accède quand il a intégré les gestes. Et cela sans compter les secondes pour maintenir une posture difficile ou le nombre de répétitions pour raffermir un muscle. On n'est pas juste en train de te dire « ne pense à rien ». La tête a quelque chose à faire. C'est là. Mais c'est très plein en même temps, et ce n'est pas plate, selon Marie-Ève Gamache-Perron. Après une séance, je n'ai certainement pas la prétention de vous dire ce qu'est le tai chi, une pratique millénaire. L'art du chi Montréal, qui appartient à un réseau comptant plusieurs centres dans le monde, offre un enseignement basé sur la méthode Stevanovitch, car il existe plusieurs traditions, écoles, approches et philosophies. Notre école a été fondée par un grand maître du chi au XXe siècle, Vladi Stevanovitch, maintenant décédé, explique Marie-Ève. Il a étudié avec des maîtres de différentes disciplines, japonaises, chinoises, indiennes, et est allé chercher des points communs entre elles. En fait, il n'existe pas vraiment de mots en français pour bien définir ce qu'est le chi, contente de cerner par l'expression « énergie vitale ». Le chi, c'est davantage quelque chose qui se sent, qui se vit, résume Marie-Ève. Au Parc Laurier, un dimanche matin, traînant une petite gueule de bois pour avoir trop célébré ma mère au souper de la fête des mères la veille, j'ai participé avec une dizaine de personnes à une séance dirigée par Joanne, une prof aguerrie. Elle m'a rappelé José, une amie cool de ma défunte belle-mère qui a longtemps pratiqué le tai chi. Le même calme olympien du visage. il y avait autant d'hommes que de femmes, dont un couple. Je pensais m'asseoir sur un banc pour les observer et ne pas perturber leur séance avec mon ignorance, mais on m'a invité à participer à la routine du Qigong. Je crois n'avoir dérangé personne, car chacun était concentré sur ses gestes. Au début, un peu nerveuse, je copiais leurs mouvements en allant trop vite, comme si je voulais prouver que je comprenais et que je pouvais être bonne, mais très vite. Je me suis ajusté au rythme du groupe. Le tai chi n'a rien à voir avec la performance. Dans une pause entre deux séquences, alors que j'interrogeais les participants sur leurs motifs pour faire du tai chi, Deva, un pince sans rire, a suscité les rires et les protestations de tous en disant que le yoga demande trop de travail et que le tai chi est pour les paresseux, en jouant sur les clichés. Ces gens-là semblent chercher quelque chose de plus qu'à être en forme, veulent bouger sans pression et sans se blesser, partager sans se comparer, davantage vivre quelque chose qu'accomplir quelque chose. C'est ma lecture très personnelle. Ce qui est important est que ça fasse du bien, rappelle Marie-Ève. Dans cette école, c'est très confort d'abord. Il n'y a rien d'autoritaire. Après, on se sent plus léger. On dirait que notre pyjama de corps est plus lousse. Elle éclate de rire. Habituellement, notre attention est portée sur l'extérieur, sur la vitesse, et déjà de ramener son attention au niveau du corps ralentit quelque chose et permet de nous ouvrir sur d'autres choses. Pas seulement sur nous, mais aussi sur les autres, sur l'environnement. Plus que l'attention sur le corps, poursuit-elle, quand on travaille le chi, l'attention est portée sur la vie qui circule dans notre corps, et ça, c'est très concret. C'est une approche et une attitude complètement différentes. J'ai été étonné d'apprendre que le tai chi est aussi un art martial. Et pour vrai, en cherchant le chi un dimanche matin au parc Laurier, j'avais l'impression de refaire des gestes de mon enfance quand on imitait le karaté de Bruce Lee au ralenti comme dans ses films, avec la même joie. De danser aussi, avec des mouvements gracieux, moi qui ai la plupart du temps le sentiment d'être un taureau dans un magasin de porcelaine. Cachées derrière la lenteur, ce sont des postures de force intérieure, je pense. Le tai chi se passe beaucoup au niveau du bassin, de la respiration, de l'équilibre, de la détente des muscles supérieurs et de la concentration. Ce jour-là, dans le visage de quelques passants qui nous regardaient, j'ai reconnu cette curiosité un peu moqueuse que j'ai toujours eue devant un groupe qui fait du tai chi. Mais cette fois, j'étais dedans. Et je n'en étais pas du tout gêné, trop occupé à sentir le vent sur ma peau, l'odeur des arbres qui bourgeonnent et combien la température était parfaite malgré les nuages gris. Je ne sais pas si je vais poursuivre ma découverte du tai chi, mais je sais maintenant que, lorsque je verrai des gens en faire dans un parc, je serai plus envieuse qu'amusée. C'était « La lenteur est une énergie », un texte de Chantal Guy, paru le 2 juin 2024 dans La Presse.
Le Québec est-il devenu exemplaire sur le plan climatique? Un texte d'Alexandre Shields paru le 6 janvier 2025 dans Le Devoir. Le premier ministre du Québec, François Legault, a vanté à plusieurs reprises le bilan de gaz à effet de serre GES de la province en soulignant que les émissions par habitant sont plus faibles que celles de la moyenne canadienne. Pris individuellement, les Québécois émettent toutefois beaucoup trop de ces gaz polluants pour être cohérents avec l'objectif de limiter les dérèglements du climat. Je suis très fier de pouvoir dire que, si l'on regarde le niveau de gaz à effet de serre par personne, nous avons le taux le plus bas du Canada et le plus bas des États-Unis, affirmait le premier ministre Legault à New York en 2023 en vantant les efforts de son gouvernement en matière de transition énergétique. Selon le plus récent bilan des émissions de GES du Québec disponible, soit celui de 2022, les émissions moyennes s'élevaient à 9,1 tonnes par habitant. À titre de comparaison, la moyenne canadienne dépasse les 18 tonnes, tout comme celle des Américains, soit deux fois la moyenne québécoise. De 1990 à 2022, les émissions par habitant ont diminué de 25,1%, précise aussi le plus récent bilan québécois. Les pays les plus pauvres de la planète, dont plusieurs subissent déjà les impacts de la crise climatique, ont des émissions de GES par habitant beaucoup plus faibles. La moyenne pour les pays d'Amérique latine et des Caraïbes se situe à 2,64 tonnes. En Afrique subsaharienne, celle-ci est de 0,76 tonnes, indiquent des données de la Banque mondiale. Selon le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, GIEC, les émissions moyennes par habitant à l'échelle planétaire devraient cependant être réduites à 2 tonnes pour espérer parvenir à respecter l'objectif le plus ambitieux de l'accord de Paris, soit limiter le réchauffement à plus 1,5 degré centigrade par rapport à l'ère pré-industrielle. À 9,1 tonnes, les émissions par habitant du Québec sont 4,5 fois trop élevées pour respecter les objectifs climatiques mondiaux. Et ce n'est pas tout, puisque la consommation de ressources des Québécois est elle aussi trop élevée. Selon ce qui se dégage d'un document publié à l'automne 2024 par Recyc-Québec et qui met en lumière le fait que notre modèle économique linéaire est basé sur une surconsommation des ressources. Dans l'ensemble, le Québec est responsable d'une importante empreinte matérielle de 271 millions de tonnes de ressources par année, soit 32 tonnes par habitant, ce qui dépasse largement la moyenne à l'échelle mondiale. Et un Québécois moyen consomme plus de 570 litres d'eau potable par jour par rapport à 130 litres par jour en France. Cette réalité découle, selon l'étude, du fait que la province a un niveau de circularité relativement faible, puisqu'à peine 3,5% de l'économie est considérée comme étant circulaire, donc lié à un système de production de consommation visant à optimiser l'utilisation des ressources à toutes les étapes du cycle de vie d'un bien ou d'un service. La moyenne mondiale est de 7,2%. C'est un mensonge de se présenter comme une société verte, conclut Yves-Marie Abraham, professeur au département de management à HEC Montréal. Tout nous démontre que le mode de vie des Québécois est un des pires de la planète sur un certain nombre d'indicateurs. On fait partie des grands destructeurs du monde. S'il y a une société qu'il ne faut pas imiter, c'est la nôtre. Mais il ne s'agit pas de faire la morale aux Québécois puisque le changement passe par des décisions politiques et par une profonde transformation de nos sociétés. C'était « Le Québec est-il devenu exemplaire sur le plan climatique ?» un texte d'Alexandre Shields paru le 6 janvier 2025 dans Le Devoir.
Sydney à l'heure du Healthy. Un texte de la rédaction paru le 25 avril 2024 dans Voyageurs du Monde. La plus grande des villes d'Australie cultive corps et esprit dans un cadre idyllique bordé par l'une des plus belles baies du monde. Dans le quartier de Bondi, entre un cours de fitness, un soin Reiki et un latte curcuma, la vie glisse doucement, comme sur un longboard. Sydney fait mentir les statistiques. Alors que l'Australie pointe dans le peloton de tête des pays en proie à l'obésité, que ces villes reculent doucement dans le classement des lieux les plus agréables à vivre de la planète, les Sydneysiders affichent haut et fort un mode de vie de plus en plus healthy, comprenez un esprit sain dans un corps sain. Il faut reconnaître qu'elle collectionne les atouts, à commencer par un cadre idyllique sur l'une des plus belles baies du monde. Baromètre de la Australian Way of Life, le quartier de Bondi donne le ton dès l'aube. Impossible de commencer sa journée sans croiser une file de runners s'attaquant aux 4 kilomètres escarpés du Bondi Bronte. Ce sentier côtier à parcourir aussi en marchant surplombe certaines des plages charismatiques de la ville, qui en compte une centaine au total. Tamarama Beach, surnommée Glamarama, est l'un des terrains de jeu aquatiques favoris des surfeurs et baigneurs matinaux. Autre point de ralliement, l'iconique piscine de l'Iceberg Club, posée à fleur des déferlantes. Un trait d'union entre la ville et le Pacifique, à l'image du quartier. Il est bien vu d'y enchaîner les longueurs avant d'attaquer sa journée. Sur l'eau, sous l'eau, sur terre, dans les airs, Bondi conjugue le sport tous azimuts. Les maisons d'architectes bardées de bois abritent des studios de yoga aux prestations diverses. Ayurvédique, aérien, suspendu à un hamac. La pratique dérive jusqu'à la mer pour une séance en équilibre sur une planche de paddle. Prendre soin de son corps et de son esprit est devenu une préoccupation majeure et différentes techniques y aident. Le Reiki, alliant méditation et relaxation, ou encore une thérapie holistique qui définit le sport le mieux adapté selon son signe astrologique. Plus surprenant, l'Extreme Pool Training, mis au point par le surfeur hawaïen Laird Hamilton et consistant à faire des exercices de fitness en apnée. Le Zoo Fitness, prononcé Zoo comme pour le zoo anglais, imaginé par l'Australien Nathan Helberg, entend, lui, libérer l'animal qui dort en vous en enchaînant de manière intensive les postures de l'iguane, du gorille ou de l'ours polaire. Une terre de barista. Redescendu sur Terre, il est temps de répondre à une autre question fondamentale de la culture australienne.
Wanna grab a coffee? Let's go breaky.
Ici encore, il ne s'agit pas de prendre les choses à la légère. Café et breakfast sont deux piliers de la vie d'un Sydneysider. Depuis l'arrivée des machines à expresso, importées dès les années 1940 par les descendants des premiers immigrés italiens, l'élixir sacré a fait de Sydney et de tout le territoire une terre de barista. Ristretto, cappuccino, macchiato s'adaptent aussi à l'heure healthy. Le latte est servi avec du curcuma et l'expresso se marie avec le kombucha, une boisson fermentée bonne pour la santé, devenant un kobofi. Chouquet, l'oméga-3 et alimentation végétalienne. Autour du café, la table du petit-déjeuner australien, toujours aussi généreuse, s'est mise au diapason. À Bondi, bacon et saucisses laissent désormais place au toast d'avocat, de kale et de chou-fleur, grande star du moment. Les jus pressés à froid composent avec les ingrédients locaux comme la prune de Kakadu, riche en vitamine C, la myrte citronnée et même le chanvre, source d'oméga-3. Dans les assiettes brunchées, les burgers troquent le steak de bœuf pour le jack fruit et sa chair tendre, les dumplings se fourrent aux champignons shiitake, tandis qu'au cœur des sushis, la tomate remplace le thon. L'alimentation non cruelle a le vent en poupe et le pays affiche la troisième plus forte croissance de population végétalienne au monde. Si la faune bondisienne puise sa forme sculpturale dans l'océan, c'est désormais en partie grâce aux algues bleues, vertes, marron, rouges. un super-aliment saupoudré à tour de bras. Pour autant, les carnivores non repentis trouvent encore leur place à des tables qui s'approvisionnent directement à la ferme biologique, of course. Et l'approche de jeunes chefs locaux, tels Joss Nitland, initiateur du nose-to-tail, littéralement du nez à la queue, montre la voie d'une consommation plus raisonnée, consistant à limiter au maximum le gaspillage. Si nous tuons un animal pour produire de la nourriture, nous devrions être obligés de l'utiliser autant que possible. Il s'agit de respecter la planète et tout ce qui y pousse et y vit. Ce que nous prenons dans les océans et les mers ne devrait pas être traité différemment de ce que nous prenons sur la Terre, souligne le trentenaire aux manettes de deux établissements, le restaurant de poissons Saint-Peter et la boucherie de poissons et fruits de mer Fish Butchery, située à Paddington. Ce quartier et son voisin, Surrey Hills, dictent également les tendances de Sydney. Laissant à Bondi le soin de nourrir le corps, eux se concentrent plutôt sur l'esprit. Les anciens entrepôts de Surrey hébergent galeries et studios, un mouvement initié dès 1994 par la First Draft Gallery, l'un des plus anciens collectifs artistiques du pays, aujourd'hui relocalisé à Woolloomooloo. Dans son siège, la Tap Art et d'autres galeries dessine le Williamsburg de Sydney. Échoppe vintage, salon de tatouage trendy et bar à vin de jour, en Australie, la vente d'alcool à la permission de minuit, complète l'atmosphère et contribue à donner à Sydney le visage d'une ville définitivement bien équilibrée. In the mood. Difficile d'élire sa plage préférée parmi la centaine que compte Sydney. Grande rivale de Bondi, située au nord de la baie, la plage de Manly remplit son rôle d'outsider. Plus décontracté, il y règne un esprit surf bohème. Ambiance marché bio, barbershop et barbecue, véritable culte du week-end australien. Mais c'est peut-être en prenant le large sur l'une des 11 plages de l'île Confetti de Lord Howe Island que se trouve l'Éden rêvé. Ce paradis à la nature préservée, adepte du tourisme durable, est un secret encore bien gardé à environ 2 heures de vol de Sydney. Autre quartier dans l'air du temps, Newton, son air vintage et ses œuvres de street art ou encore Chippendale, cluster de modernité où l'on vient bruncher avant une expo à la White Rabbit Gallery et après une déambulation gustative et asiatique dans Spice Alley. Enfin, Sydney ne serait pas Sydney sans une balade sous les Jacarandas du Royal Botanic Garden et au Museum of Contemporary Art ou encore un pique-nique entre la plage et le parc de Bronte ou dans la réserve de Barangaroo pour prendre un peu de recul et profiter de la vue sur le spectaculaire Harbour Bridge. C'était Sydney à l'heure du Healthy, un texte de la rédaction paru le 25 avril 2024 dans Voyageurs du Monde.
Une nouvelle éclosion de rougeole au Québec. Un texte de Florence Morin-Martel paru le 3 janvier 2025 dans Le Devoir. Après une flambée de cas de rougeole ayant pris fin en juin 2024, le Québec fait face à une nouvelle éclosion depuis décembre 2024. En date du vendredi le 3 janvier 2025, les autorités sanitaires ont recensé 4 cas confirmés de Québécois ayant contracté la maladie, a indiqué le ministère de la Santé et des Services sociaux au Devoir. Selon les informations dont la santé publique dispose, ces 4 cas seraient liés épidémiologiquement et ont acquis la maladie au Québec. Le premier cas a été exposé via une personne résidant à l'extérieur du Canada et ayant voyagé au Québec durant sa période de contagiosité avant de recevoir son diagnostic, a précisé Marie-Pierre Blier, responsable des relations avec les médias au ministère. Pour des raisons de confidentialité, celui-ci n'a pas voulu dévoiler dans quelle région habite chacune des personnes infectées lors de cette nouvelle éclosion qui est toujours en cours. Il est toutefois possible de confirmer que quelques cas résident dans la région des Laurentides, a dit Mme Blier. Québec invite cependant la population à consulter en ligne la liste des endroits fréquentés par les personnes ayant contracté la rougeole récemment. Il s'agit notamment de l'urgence de l'hôpital de Saint-Jérôme et de la salle d'attente du centre hospitalier de Saint-Eustache. En 2024, une première éclosion avait donné lieu à 51 cas au Québec, entre les mois de février et de juin. En tout, 56 cas confirmés ont été déclarés dans la province dans la dernière année. Des éclosions éparpillées sur la planète. Les années 2023 et 2024 ont été marquées par de nombreuses flambées de cas de rougeole dans le monde, soulève la docteure Caroline Quashton, pédiatre, microbiologiste infectiologue au Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine. Depuis 2020, on voit qu'il y a une diminution de la couverture vaccinale un peu partout sur la planète. On a donc eu des éclosions à différents endroits. Très contagieuse, la rougeole est une maladie grave causée par un virus qui se transmet par voie aérienne lorsqu'une personne infectée respire, tousse ou éternue. Ses premiers symptômes peuvent s'apparenter à un rhume, accompagné de fièvre, de toux et de congestion nasale avec écoulement, explique la médecin. Or, des rougeurs sur la peau surviennent ensuite, dit-elle. La rougeole n'est pas à prendre à la légère, car elle peut entraîner la perte de la vue ou de l'audition, des dommages permanents au cerveau ou même la mort, explique la docteure Quashton. Les bébés âgés de moins d'un an, les gens dont le système immunitaire est affaibli et les femmes enceintes non vaccinées sont les groupes les plus susceptibles de développer des symptômes graves. Les personnes adéquatement vaccinées sont toutefois bien protégées contre la maladie, rappelle la pédiatre microbiologiste infectiologue. Regardez votre carnet de vaccination, puis si vous n'êtes pas vacciné, ça vaut la peine d'aller retrousser sa manche, souligne-t-elle. C'était une nouvelle éclosion de rougeole au Québec, un texte de Florence Morin-Martel paru le 3 janvier 2025 dans Le Devoir.